Huelet Bioéthique, il y en a eu 6, dont 4 qui s'appellent Huelet Bioéthique, celle de 1994, 2004, 2011 et 2021. Puis entre les deux, il y en a eu une en 2013 et une en 2016, qui n'étaient pas des lois dites bioéthiques, mais qui ont été votées sous l'empire de M. Hollande et qui ont été très, très mauvaises. En fait, ce qu'il faut voir, maintenant c'est intéressant parce qu'on a une vision panoramique sur 30 ans quand même, hein, 30 ans de loi de bioéthique. Et la Fondation était déjà née. La Fondation est née avec enfin, au moment de la première loi de bioéthique, c'est-à-dire au moment où est mort Jérôme Lejeune. Il est mort en 94, le jour de Pâques 1994. J'ai pu discuter avec lui de la première loi de bioéthique de 94. Et puis, bon, il est mort le jour de Pâques, donc ça n'a pas duré très longtemps, mais la loi a été votée à l'été suivante. Donc c'est quand même important de voir les ravages qui ont été commis par... Cette loi de bioéthique a été présentée dès le début comme quelque chose d'extraordinaire, parce qu'on disait, ça y est, enfin, une loi qui va encadrer. Bon, elle n'a rien encadré du tout, elle a déroulé un tapis rouge de la transgression pendant 30 ans. Alors, si vous voulez, il y a quatre... Et elle est arrivée, je vais vous dire tout de suite le résultat des courses, pas peine d'attendre. En fait, elle a créé une situation objectivement transhumaniste. Quand on parle de transhumanisme, aujourd'hui, on pense à des robots, à des drones, à l'intelligence artificielle, à des trucs qui nous font peur demain, pour demain. C'est pas tout de suite, mais non. C'est pas ça le transhumanisme. Le transhumanisme, il est déjà en acte aujourd'hui à travers la technoscience mise au service de l'industrie procréatique, en fait. Et c'est ça le véritable transhumanisme. Le transhumanisme, c'est pas compliqué, ça tient en trois mots. Le premier, c'est l'augmentation. Donc le transhumanisme a pour but d'augmenter l'homme. De l'augmenter parce qu'on est très déçu de l'homme, en fait. On trouve que c'est finalement maintenant un produit un peu hors d'âge, un peu passé de mode. Il a beaucoup déçu. Qu'il a fait des tas de bêtises pendant le XXe siècle, ce qui n'est pas faux. Et au fond, on se dit qu'on pourrait quand même passer à autre chose. Et donc, c'est une grande déception, une perte de l'idée de nature humaine. Et on se dit, mais au fond, on peut sûrement faire mieux. Et on peut d'autant faire mieux que, le deuxième mot important, c'est la convergence. La convergence de différentes techniques, NBIC, leur nanotechnologie, bio, je ne sais plus quoi, informatique, sciences cognitives. Vous voyez, en gros, c'est ces sciences qui sont effectivement très performantes, mais qui, juxtaposées les unes aux autres, permettent aujourd'hui de faire augmenter, en quelque sorte, les capacités de l'homme, dans la dimension intellectuelle, dimension physique, dimension sexuelle aussi, naturellement. Et puis, le troisième mot important pour qualifier le transhumanisme, c'est ce qu'ils appellent le moment où l'intelligence artificielle va prendre le pas sur l'intelligence humaine. Bon, ça, c'est pas encore tout à fait arrivé, mais on n'est pas loin. Et dans certains domaines, on peut dire que l'intelligence artificielle est déjà en train de prendre le pas sur l'intelligence humaine. Donc, en fait, quand on considère ces caractéristiques de l'espèce humaine, du transhumanisme, on s'aperçoit que la volonté du transhumanisme, c'est pas de faire des robots, c'est de modifier la nature humaine. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, c'est pas... d'améliorer la vue de manière très performante, d'améliorer la capacité sportive, bon, tout ça, c'est mesurable, c'est désirable, tout ne doit pas être fait dans l'excès. Enfin, il n'y a pas de modification de nature humaine quand on vous met des prothèses auditives, quand on vous met des béquilles, quand on vous met un cœur artificiel, tout ça, ça reste... On n'a pas la prétention, on n'a pas la volonté de changer la nature humaine. En revanche, dans l'esprit des transhumanistes, ils veulent changer la nature humaine et en faire naturellement... Un modèle augmenté, plus performant, avec l'alliance justement de ces technosciences que je viens de citer, et notamment l'alliance de la technique, de la machine avec l'être humain, ce qu'on appelle les cyborgs. Donc moitié machine, moitié être humain. Par exemple, l'implantation de puces dans le cerveau. Alors en soi, c'est pas suffisant pour qualifier le transhumanisme. Il y a déjà des thérapies qui utilisent des implants cérébraux. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, ce n'est pas ce que je dis, mais c'est la volonté de modifier qualitativement l'espèce humaine, la faire passer, c'est une modification de qualité de la nature humaine. Les techniques de procréation artificielle, qui ont été essentiellement la préoccupation de toutes les voies bioéthiques pendant 30 ans, y sont parvenus en quatre étapes, que je vous résume de manière très synthétique. La première, c'est la sélection de l'être humain déjà conçu. Alors, c'est toutes les techniques de diagnostic prénatal qui se sont beaucoup développées même sur le fondement législatif de la première loi de bioéthique de 1994. Donc au fond, on s'est dit, voilà, dans certains cas, Si on peut éviter la naissance d'enfants handicapés, faisons-le. Ça s'appellera l'interruption médicale de grossesse. Alors, ça a été déjà autorisé par la loi Veil en 1975, mais ça a été réglementé, étendu systématisé, généralisé, remboursé, etc., avec un raffinement de modernité. Et c'est passé pour quelque chose de tout à fait désirable. Ce diagnostic prénatal, nous, évidemment, à la Fondation, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, parce que c'est notre premier ennemi, c'est le diagnostic prénatal, puisqu'en fait, il élimine 97% de la population des personnes porteuses de trisomie 21 qui ont été diagnostiquées avant la naissance, positivement comme trisomique. Donc 97% des enfants trisomiques dépistés avant la naissance sont éliminés par l'avortement. Et ces techniques-là ont été raffinées année après année. Chaque année, il y avait des améliorations. Je ne détaille pas les différentes formules qui se sont succédées dans le temps avec grand renfort d'articles scientifiques, d'articles dans la grande presse, dans la vulgarisation, etc. Et la dernière en date que je cite quand même, c'est ce qu'ils appellent le diagnostic prénatal non invasif. Vous savez qu'auparavant, il y avait les marqueurs sériques de manière générale, c'est-à-dire une prise de sang. On voyait des marqueurs qui indiquaient que la femme peut-être était dans une zone à risque. Et puis après ça, il fallait confirmer avec une amniosynthèse. Bon, entre-temps, il y avait eu aussi les signes d'appel échographiques. Donc c'était un ensemble de choses. L'échographie, les marqueurs sériques et l'amniosynthèse, c'était quand même assez long, assez compliqué. On pouvait se tromper, il y avait des erreurs, etc. Ça se fait toujours. Et maintenant est arrivée une nouvelle technique, le diagnostic prénatal non invasif. En fait, la technique part d'une découverte qui n'est pas inintéressante, qui consiste à montrer que dans le sang de la mère, dans le sang, son sang circulant, pas dans le liquide amniotique, dans le sang avec une prise de sang normale, non invasive, eh bien, on retrouve des éléments du génome de l'enfant qu'elle porte. C'est une très belle découverte. Ça montre quand même qu'il y a un lien très étroit entre la mère et l'enfant, ce qui n'est pas en soi quelque chose d'étonnant. Et ce qui est très beau aussi, parce que ça veut dire que ce qui reste dans le sang de la mère demeure toujours, en fait. La mère conserve toujours des traces de l'enfant qu'elle a porté, éventuellement qu'elle a perdu, ou qu'elle n'a pas voulu garder. Donc, ça veut dire beaucoup de choses aussi sur le plan symbolique. Et alors, en fait, avec cette découverte-là, les Américains, enfin, des laboratoires, des boîtes pharmaceutiques américaines, se sont dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Parce que c'est une découverte vraiment intéressante, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Ils ne se sont pas demandé à quoi ça pourrait servir pour le bien de la personne. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme argent avec? Qu'est-ce qui sera le plus rentable? C'est exactement en ces termes-là que c'est fait. Et donc les biotech américaines se sont penchées sur la question, ils ont examiné différentes possibilités, et ils ont finalement jeté leur dévolu sur la trisomie 21, en disant, c'est ce qui sera le plus rentable. Et ils ont fait des modélisations, des projections financières, etc. Ils ont fait rêver les marchés en disant, vous allez voir ce que vous allez voir. En gros, ils disaient, ça va concerner la moitié de l'humanité, c'est-à-dire toutes les femmes, en gros, parce que toutes les femmes, ça va les intéresser. Il suffit de faire peur à la moitié de l'humanité en leur disant, j'espère que vous ne voulez pas avoir un enfant handicapé. Bon, de faire peur à toutes les femmes capables d'avoir des enfants, désireuses d'avoir des enfants, c'est-à-dire pratiquement toutes. Et à ce moment-là, c'est des fleuves entiers de milliards de dollars qui seront engrangés par les labos, parce que naturellement, aucune femme ne voudra donner naissance à un enfant handicapé, surtout si on peut le prévoir à l'avance et éliminer très tôt. C'est ainsi que c'est la trisomie 21 qui a été élue pour mettre en œuvre ce brevet que les Américains avaient acheté à un Chinois qui avait découvert ça. Et donc, en fait, ce diagnostic est extraordinaire, parce que c'est presque un diagnostic, c'est-à-dire qu'il est fiable à 99,9%, il est extrêmement rapide, fiable, il peut être fait très tôt, il est non-invasif. Bon, donc en fait, il permet, c'est l'argument de vente aussi, éventuellement, d'avoir un avortement extrêmement tôt, même dans le délai même de l'IVG, ce qui va brouiller complètement les pistes, parce que du coup, il n'y aura même plus besoin de passer par le médecin. Donc la femme aura éventuellement un catalogue de pathologies qu'elle pourra dépister grâce à cette technique, parce qu'on a commencé par la trisomie, mais on peut le faire pour le reste. Et à ce moment-là, elle pourra cocher, et avoir vraiment un enfant à la carte, en subissant éventuellement une interruption de grossesse extrêmement tôt, sans avoir besoin de passer chez le médecin, puisque ce sera dans le délai de l'IVG. Bon. Donc ça remet en cause beaucoup de choses. C'est-à-dire que même la place du médecin, qui peut éventuellement être dans certains cas un peu dissuasive en disant, écoutez madame, bon, voilà, enfin, je vous le dis, je suis obligé de vous le dire, mais enfin, bon, vous n'êtes peut-être pas obligé de le faire. Ça sera terminé. Bon. Donc, diagnostic prénatal non invasif. Donc voilà, première étape, la sélection de l'être humain déjà conçu. Deuxième étape, c'est le contraire, la conception d'un être humain en vue d'une sélection. Alors on passe à l'étape encore plus hard, si je puis dire, puisque là, c'est le développement de la protection médicalement assistée qui a été l'objet de la loi de bioéthique. Il faut bien voir que la première loi de bioéthique a eu pour objet essentiellement de développer, d'autoriser, de légaliser la procréation médicalement assistée, la PMA. Donc quand on a dit que la bioéthique met des barrières, évite que... Non, on a autorisé quelque chose qui ne l'était pas. On a rendu légal ce qui n'était pas, on a rendu éthique ce qui ne l'était pas. Bon, c'est ce qu'on appelle loi de bioéthique. Et allait avec ce développement de la PMA, cette légalisation de la PMA, le diagnostic préimplantatoire, qui est la technique qui permet, une fois qu'on a fait une fécondation in vitro, une FIV, eh bien, d'abord d'en faire plusieurs, parce que bon, c'est risqué, ça coûte cher, et puis ça ne marche pas toujours. Donc on prélève un grand nombre d'ovocytes, on en féconde in vitro un certain nombre, une demi-douzaine, et puis on voit ceux qui tiennent, ceux qui ne tiennent pas, ceux qui ont une bonne tête ou ceux qui n'en ont pas une. Enfin, on fait déjà un premier tri, et puis on en réimplante quelques-uns. Alors avant, on en réimplantait plusieurs, on en réimplantait quatre. Donc évidemment, après, c'était pas possible, ou quatre ou plus d'ailleurs. Et on voyait ceux qui restaient, et puis quand il y en avait plusieurs qui prenaient et qui se développaient, on était obligé de procéder à ce qu'on appelait des réductions embryonnaires, c'est-à-dire qu'on en avortait, enfin, vous voyez, la gymnastique. Une femme ne peut pas avoir d'enfant, lui on en met quatre, on lui en a F2, enfin bon, voilà. C'est quelque chose d'horrible. Et donc, cette technique de PMA, elle est indissociable du diagnostic préimplantatoire. Bon. Parce qu'il y a deux types de PMA. Il y a les PMA pour les personnes, les femmes, les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Et puis, il y a la PMA aussi pour les couples qui ont des maladies familiales, héréditaires, des maladies génétiques. Et à ce moment-là, on va rechercher effectivement les embryons qui sont porteurs de cette maladie. Et on ne les garde pas, on ne réimplante que les embryons de ça. Donc, cette technique de PMA, elle est extrêmement eugéniste. Elle est très eugéniste et elle est encore plus eugéniste que le DPN. Elle n'est même pas régulée par l'avortement. Ça, c'est Jacques Testard, le grand biologiste Jacques Testard, qui a été l'un des pères du premier bébé français né par FIVET, et qui me l'a expliqué un jour, et j'ai eu du mal à comprendre, et je n'étais pas d'accord avec lui, mais finalement, je pense qu'il avait raison. Il disait que finalement, l'eugénisme était beaucoup plus marqué dans le DPI que dans le DPN, parce que dans le DPN, bon, l'enfant est déjà installé dans le ventre de sa mère, et la mère se dit, est-ce que je le garde, est-ce que je ne le garde pas? Bon, il y a quand même la perspective de l'avortement qui, même pour les femmes qui y sont favorables, ne reste pas quand même un moment agréable. Donc il y a une forme de régulation. Je dis ça, je ne suis pas favorable au DPN et à l'avortement, évidemment, mais il avait raison. Parce que dans le DPI, la femme n'en sait rien. C'est du tri embryonnaire en éprouvette, fait par un laborantin qui arrive le matin... Qui pose sa canne et son chapeau, et puis qui fait son tri, il repart le soir, et il a un objectif de qualité, de rendement, et donc on est vraiment dans l'eugénisme le plus pur, quoi, le plus chimiquement pur. Donc, voilà, la conception d'un enfant en vue d'une sélection. Donc, on rentre vraiment de plein pied dans l'eugénisme, et alors il y a eu des raffinements aussi, au fur et à mesure des différentes lois bioéthiques, deux en particulier. Alors, ce qu'on appelle le DPI HLA, qu'on a appelé aussi le bébé du double espoir, c'est-à-dire qui consiste à fabriquer un bébé qui pourra soigner un grand frère ou une grande sœur née auparavant, qui a une maladie, qui pourrait être soignée éventuellement par un prélèvement de moelle ou de cellules d'un enfant sain qui serait né après. Alors c'est en fait un raffinement, alors ça a été présenté comme le bébé du double espoir, enfin bon, il y a une terminologie romantique au-dessus de tout ça. En fait c'est un double DPI, c'est-à-dire qu'on commence par sélectionner un enfant qui n'a pas la maladie du grand frère ou de la grande sœur, donc qui est un enfant sain. Et après, on fait un deuxième tri pour savoir si l'enfant est compatible et pourra effectivement faire une greffe, pourra faire une greffe pour le grand frère ou la grande sœur. Donc c'est quand même un moyen sur le plan éthique. Voilà, ça s'appelle le DPI HLA. Et puis, il y a un nouveau raffinement contre lequel la Fondation a lutté pendant des années avec un certain succès parce que c'est revenu dans chaque loi de bioéthique. C'est ce qu'on appelle le DPI A. Le DPI A, c'est-à-dire que le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies. Une aneuploïdie, c'est la trisomie, c'est-à-dire un nombre de chromosomes qui n'est pas normal. Et donc, le diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies, au motif que, ce qui est une chose qui n'est pas prouvée, les anomalies chromosomiques d'un embryon conduiraient cet embryon à avoir moins de capacité d'implantation sur la muqueuse utérine. Autrement dit, pour améliorer les performances du diagnostic de la PMA, qui sont pas extraordinaires, ça coûte très cher et ça marche pas très bien, eh bien, certains scientifiques, depuis longtemps, qui font de la PMA, disent éliminons déjà systématiquement dans le tri embryonnaire tous les embryons dont on pense qu'ils ne pourront pas s'implanter correctement, et en particulier les embryons trisomiques. Pas de chance, c'est toujours sur eux que ça tombe. Bon, évidemment, il n'y a aucune... Enfin, si, il y a quelques publications qui le montrent, mais il y a autant de publications qui montrent le contraire. Donc, pour le moment, il n'y a pas du tout de consensus scientifique sur tout ça. Il n'empêche que c'est une demande récurrente des scientifiques. Donc, René Friedman en particulier. Friedman, c'était le compère de Jacques Testard pour la fabrication de la petite Amandine qui est née en 82. Mais à la différence, ils sont très différents tous les deux, parce que Friedman est resté une cocotte, si je puis dire, au monde médiatique, etc., même à 85 ans. Et Testard, très vite, a dit, moi, j'arrête, parce que je trouve que ça ne va pas du tout ce qu'on fait, ça va dans la mauvaise direction, et je ne suis pas favorable à cet eugénisme. Donc, Testard, qui est un bouffeur de curé, un mec d'extrême gauche, etc., a, sur ce plan-là, sur le plan anthropologique, une vision assez saine. Et moi, enfin, si Julien vous intéresse, lisez les livres de Testard, qui sont d'ailleurs très bien écrits, et dans lesquels il y a beaucoup de sagesse, qu'on n'a pas trouvée sous beaucoup de plumes depuis 30 ans. En tout cas, c'est chez lui que moi j'ai appris le plus de choses. Et je pense que c'est lui qui est le plus lucide. Alors après ça, on n'est pas d'accord sur tout, mais en tout cas sur l'orientation que prend la procréation médicalement assistée avec ce tri systématique qui peut être fait maintenant par ordinateur, il y avait quand même des choses à dire, et lui il les a dites, et il les a dites suffisamment tôt. Alors maintenant certains découvrent la Lune, mais en fait on pouvait le dire déjà il y a 30 ans, et lui il l'a dit il y a 30 ans. Je l'avais déjà rencontré d'ailleurs il y a 30 ans, il m'avait dit c'est déjà foutu. Au moment de la première loi de bioéthique, 94, il était bien le seul à le dire. Hein. Partout dans les journaux, y compris les journaux chrétiens, tout le monde se félicitait de la loi de bioéthique. La France était le premier pays à être doté d'une loi de bioéthique, on trouvait ça formidable. Donc on s'est battu contre le DPI-A, avec beaucoup de succès d'ailleurs, parce qu'on l'a évité en 2011. Quand on s'est battu, c'est-à-dire qu'on a fait de lobbying auprès des parlementaires qu'on connaissait, etc. Bon, c'était encore possible entre 2009-2011, parce que c'était le gouvernement Sarkozy, on avait quand même un peu accès un peu au gouvernement, un peu au cabinet, etc. Bon, après, c'était plus possible, quoi. Bon, c'était complètement fermé. Et puis, c'est revenu après, dans la dernière loi de bioéthique, et on a quand même réussi à... Enfin, c'est pas que nous, mais... Il se trouve qu'il y a eu une pression absolument énorme pour obtenir ce diagnostic préimplantatoire des aneuploïdies, qui est encore une fois totalement illégal aujourd'hui. C'est-à-dire que dans les dispositions réglementaires sur le DPI, on ne peut faire du diagnostic préimplantatoire que lorsqu'il y a effectivement une maladie héréditaire dans une famille. Mais le rechercher systématiquement pour plein de pathologies, ça ne se fait pas. Donc c'était considéré jusqu'à présent comme de l'eugénisme, mais ça ne se faisait pas. On comprenait, il y avait un certain rationnel, une certaine raison, enfin, même si on n'adhère pas à ça, mais rechercher systématiquement chez tous les embryons, dans le cas d'une PMA, la trisomie 21, c'est n'importe quoi. Parce que d'abord, la trisomie 21 est une maladie génétique, mais ce n'est pas une maladie héréditaire. Donc si on commence à rechercher des caractéristiques non héréditaires dans le génome des embryons, on n'a pas fini, parce qu'on peut chercher... On peut chercher la couleur des cheveux, la couleur des yeux, enfin, je veux dire, il n'y a plus de limite, enfin, je veux dire, c'est totalement arbitraire. C'est arbitraire. Et choisir la trisomie 21, c'est arbitraire, parce que rien ne démontre absolument que les enfants trisomiques ne s'implantent pas, c'est même le contraire, puisque, justement, ils naissent. Bon, donc, je veux dire, et ils survivent. Donc, on ne peut pas dire qu'ils ont du mal à s'implanter. C'est pas ça leur problème. Bon, il n'empêche que c'est une accroche facile. Et donc, on a mis ça un peu en échec, avec le concours, d'ailleurs, il faut le dire, de gens qui ne sont pas de notre bord, comme ça arrive très souvent, c'est-à-dire le concours de la ministre de la Santé, à l'époque Madame Buzyn, qui était encore aux affaires à cette époque-là, c'est début 2020, et elle avait dit sa ferme opposition au DPI-A, contre d'ailleurs son parti, contre les socialistes, contre un somme de macronistes, hein, mais elle disait non, pour moi c'est l'eugénisme, et je trouve qu'elle a été courageuse. Et c'est pour ça que c'est compliqué ces matières-là, on ne peut pas dire tout le monde n'est pas blanc ou noir, bon, souvent c'est compliqué, les gens... sont partagés, ils ont des aspects, voilà, ils ont des zones d'ombre et des zones de lumière, mais comme chacun d'entre nous, finalement. Enfin, voilà, pour vous dire que quand même, ce terrain-là est assez... Alors, on l'a empêché, mais ce qu'on n'a pas empêché, c'est que après Madame Buzyn, est arrivé M. Véran, comme ministre de la Santé, et lui était très favorable à ça, mais il n'a pas voulu déjuger, ou il ne pouvait pas déjuger sa ministre avant, et donc il a dit, mais on va faire un PHRC, c'est-à-dire un programme hospitalier de recherche clinique, dans lequel on va expérimenter le DPI. Le DPI-A, et si jamais ça marche, à ce moment-là, ben, on le mettra en œuvre. Autrement dit, on va se passer de la loi, on le fera quand même. Ce PHRC, on l'a suivi, et on en a trouvé la trace, parce qu'il avait été autorisé par l'Agence nationale de la SNS, de la Sécurité sanitaire, non publié, donc en fait on l'a vraiment cherché, parce qu'on savait qu'il avait été autorisé, mais il ne voulait pas le publier pour ne pas le montrer, et en fait on l'a attaqué devant les juridictions administratives en disant qu'il était illégal, parce qu'en fait ce projet hospitalier de recherche clinique, en fait, autorisait le DPIA à titre d'expérimental, mais en fait la loi n'avait pas changé, donc en fait c'était illégal de procéder à cette expérimentation. On n'a pas le droit de faire des expérimentations illégales. Ou alors il fallait que la loi dise, à titre dérogatoire, les parlementaires autorisent de chercher tous les trisomiques partout dans toutes les PMA. Donc que l'illégalité de cette recherche sera reconnue. On embête bien les chercheurs qui font des recherches illégales. La troisième étape, donc après la conception d'un enfant, la sélection d'un enfant déjà conçu, la conception d'un enfant en vue d'une sélection, troisième étape, la déshumanisation de l'être conçu et sélectionné, c'est la recherche sur l'embryon. Ça a été autorisé dans la deuxième loi de bioéthique, alors que lors de la première loi, on avait dit jamais on ne fera de recherche sur l'embryon. C'était M. Mattei, Jean-François Mattei, le généticien, qui avait dit, en tant que parlementaire à l'époque, il était parlementaire, il portait la première loi de bioéthique de 1994. Elle dit, voilà, on autorise la PMA, mais jamais on ne fera de recherche sur l'embryon, c'est promis, c'est la limite, c'est la ligne rouge, on ne franchira pas. Lui-même devenu ministre 10 ans plus tard, évidemment, porte la nouvelle loi, et qu'est-ce qu'il propose? La recherche sur l'embryon, sur laquelle il était tout à fait défavorable 10 ans plus tôt. Comme quoi, voilà, c'est l'éthique à géométrie variable, et donc il a fait voter en 2004 la recherche sur l'embryon. Alors, évidemment, à la méthode française, c'est-à-dire article 1, la recherche sur l'embryon est interdite, article 2, elle est permise. Sous quelques conditions. Voilà, bon, c'est toujours comme ça que ça marche. Et donc, cette recherche sur l'embryon, elle a connu des développements considérables, parce qu'elle a été, elle a connu ce régime, effectivement, d'interdiction plus dérogation. Elle a connu ce régime-là pendant un certain temps. Et puis, alors, après ça, les dérogations étaient temporaires, elles étaient provisoires. Puis après ça, elles sont devenues définitives. Et puis après ça, est arrivé Monsieur Hollande, et une des premières mesures qu'il a fait voter, avant même le mariage homosexuel, qui pourtant était une mesure phare de son quinquennat, ça a été effectivement de changer le régime de recherche sur l'embryon et de supprimer l'interdiction de la recherche sur l'embryon et de l'autoriser. Donc par principe, la recherche sur l'embryon est autorisée et assortie de quelques conditions pour faire bien quand même. Voilà. Donc c'était un changement de paradigme complet, c'est-à-dire que ce qui était interdit plus dérogation est devenu autorisé plus encadrement. Ça n'a l'air de rien, mais en fait c'est un changement important, c'est-à-dire que les chercheurs disent, ok, la recherche sur l'embryon est autorisée. Maintenant, bon, effectivement, il faut fournir quelques documents, mais voilà. Alors, on a beaucoup travaillé sur ces choses-là, parce qu'il y a eu énormément de recherches sur l'embryon. C'est des recherches qui détruisent l'embryon. Les embryons humains, c'est des centaines et des milliers d'embryons humains qui passent à la moulinette et qui sont finalement des matériaux de recherche pour les laboratoires. Donc il y a des recherches tous azimuts. Alors nous, ces recherches-là sont publiées par l'Agence de la biomédecine qui est chargée de délivrer ces autorisations administratives. Et nous, on attaque devant les juridictions administratives ces actes administratifs en montrant qu'ils sont illégaux. Donc on n'attaque pas les chercheurs, on n'est pas des empêcheurs de tourner en rond, on veut simplement faire respecter les quelques dispositions encore protectrices dans la loi. Et donc les quelques dispositions qui sont requises pour faire une recherche sur l'embryon, eh bien, on vérifie si elles sont là dans les projets de recherche. Et sur 200 projets de recherche, par exemple, on a attaqué une cinquantaine. Bon, une cinquantaine, ça fait quand même beaucoup de recours, parce qu'il y a la première instance, il y a l'appel, il y a la cassation, ça revient après. Bon, c'est énormément de mémoire, énormément de travail intellectuel juridique et de travail intellectuel scientifique, parce qu'on essaie d'attaquer à la fois sur le plan juridique et sur le plan scientifique. On a été très, très aidé par un scientifique dont vous avez peut-être entendu parler, qui était Monseigneur Jacques Ciudot, qui était Monseigneur à la mode romaine. Il a travaillé beaucoup à Rome, et il était français, il était de Voiron, donc pas très loin d'ici. Il a travaillé à Rome très longtemps, c'est une vocation tardive, et avant il était scientifique, médecin, chercheur, il a travaillé aux États-Unis, et il s'est passionné par la question de bioéthique, et donc il nous a énormément aidé dans la bibliographie pour étayer nos rapports. En fait, il y avait deux conditions importantes pour faire la recherche sur l'embryon, qui étaient, d'une part, qu'on ne pouvait pas faire autrement. Autrement dit, qu'il n'y avait pas d'alternative d'efficacité comparable. Alors ça, c'est compliqué. Hein. Il faut montrer que cette recherche-là pouvait être faite ou pourrait être faite avec d'autres cellules que celles prélevées sur l'embryon humain. Bon, il faut y aller. Hein. Il faut trouver quand même. Et ça, Jacques Ciudot nous a trouvé ça avec
avec un talent extraordinaire en faisant des bibliographies formidables. Alors on trouvait et on disait au juge, bah, allez, cette recherche-là, il demande de cannibaliser un embryon humain, c'est pas la peine. Ça a été fait au Japon avec des cellules souches qu'on trouve dans le sang ou dans la peau ou dans, que sais-je encore, dans la moelle, etc. Donc l'alternative d'efficacité comparable. Et puis, il fallait aussi que cette recherche entraîne des perspectives thérapeutiques majeures. Alors après ça, ils ont baissé, ils ont dit un effet médical. Pas bon. Mais enfin, en gros, il fallait quand même que ça apporte un bénéfice médical. Et donc on cherchait à montrer qu'effectivement, dans certains cas, il n'y avait aucun... C'était du travail uniquement pour les labos. Enfin, il y avait... C'était du... Par exemple, du screening, des screenings... on prenait des embryons pour screener des molécules dans les labos, quoi. Au lieu de le faire sur les animaux, on faisait sur les embryons humains, parce que ça coûtait moins cher, hein. C'est tout. Ça coûte beaucoup moins cher d'utiliser des embryons humains pour screener les molécules. Et puis il y a des lignes de protection des lapins et des souris, hein, donc... il ne faut pas rigoler avec ça, hein. Donc les embryons humains, ça gêne personne, et c'est gratuit. Donc en fait, on arrivait à montrer, et on a quand même obtenu quelques succès. Quelques succès, dont un récemment, juste avant Noël, qui était un beau cadeau de Noël. C'est une recherche qu'on avait attaquée en 2016 et les résultats ont été donnés au Conseil d'État en 2023. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc 6-7 ans, quoi. Et en fait, il s'agissait, on avait attaqué la recherche qui visait à créer un embryon avec trois patrimoines génétiques. La France avait autorisé, en 2016, à fabriquer des embryons avec trois patrimoines génétiques. Faut quand même. Enfin, je sais pas, enfin. Alors, évidemment, tout ça a été nimbé de bonnes intentions, puisqu'il essaie de lutter contre des maladies mitochondriales. Bon, les maladies mitochondriales, c'est donc ce qui se trouve dans la cellule, qui n'est pas le noyau, mais qui est l'enveloppe de la cellule, les mitochondries qui sont apportées par l'ovule, par l'ovocyte, donc par la mère. Et donc, pour éviter ça, en fait, ils cannibalisaient en fait deux embryons pour en faire un troisième. Ils prenaient dans l'embryon, ils prenaient le noyau qui était sain, ils prenaient le noyau de cette cellule, cet embryon a une cellule, et il le réimplantait dans un embryon dont le cytoplasme était sain, donc les mitochondries étaient saines, ils énucléaient ce deuxième embryon, et ils mettaient le noyau du premier dans le deuxième. Donc avec deux embryons, ils en faisaient un qui était sain. Bon, il y avait quand même donc trois patrimoines génétiques, parce qu'il y avait le papa-maman qui était dans le noyau, et puis comme il y a également du patrimoine génétique dans le cytoplasme, dans les mitochondries, il y avait un apport mitochondrial de cette troisième personne qui était l'ovocyte donné par une donneuse. Bon. Donc on ne sait pas du tout ce que ça donne quand même de mélanger, alors même s'il y a très peu de patrimoine génétique dans les mitochondries, enfin ça, c'est quand même du bricolage, quoi. Et donc on a attaqué ça en montrant trois choses, c'était du transgénisme, or la loi de bioéthique de l'époque interdisait le transgénisme, c'est du transgénisme à la mesure où... on modifie le patrimoine génétique de l'embryon. Et qu'est-ce que ça va devenir quand il sera grand, s'il se reproduit, etc. On a montré que c'était également la création d'un embryon pour la recherche, ce qui est interdit. On n'a pas le droit de créer un embryon pour la recherche, enfin à l'époque. Et puis on montrait également que c'était une technique de clonage, puisque finalement on prenait un noyau, on le réimplantait dans un... Enfin bon. Et finalement on a gagné sur le fondement du transgénisme, qui était pour nous une très belle victoire. Voilà, on fait ce genre de travaux qui sont quand même des travaux de moines, hein, de longue haleine, mais qui, en fait, la seule jurisprudence aujourd'hui, c'est-à-dire les seuls jugements du juge sur l'activité de recherche sur l'embryon en France depuis 15 ans, c'est que Jérôme Lejeune. Il n'y a que nous qui faisons ça. Alors, c'est pas qu'on est meilleur que les autres, mais c'est parce qu'en fait, c'est un peu notre métier, c'est dans nos statuts, on défend la vie de la conception à la mort, il n'y a pas de fondation qui ait ce statut-là très protecteur, donc on ne peut pas nous dire, vous défendez l'embryon, oui, on défend l'embryon, c'est dans les statuts, c'est reconnu par le Conseil d'État. Et donc, les juridictions administratives, et singulièrement le Conseil d'État, a toujours reconnu notre intérêt à agir, parce que, non seulement on peut avoir raison sur le fond, mais il faut aussi qu'on ait un intérêt à agir, cet intérêt à agir est donc dans nos statuts. Et c'était très facile pour le Conseil d'État, en fait, de nous écarter tout de suite en disant, bah, écoutez, d'accord, mais par exemple, vous avez une consultation de personnes trisomiques, bah, occupez-vous de tout, c'est déjà pas mal. Hein. Et puis laissez-nous tranquilles avec les chercheurs et les embryons, là. C'est pas votre affaire. Et en fait, non, il aurait pu nous écarter comme ça en disant, vous n'avez pas d'intérêt à agir. Et en fait, si. Et donc, pour nous, c'est une très grande richesse parce que cette jurisprudence, maintenant, elle est très riche. Alors, on n'a pas gagné des dizaines, mais on a gagné au moins 10 ou 15. Donc, c'est pas mal, hein. Et puis on a gagné en première instance, après on a perdu en deuxième instance. Bon, bref, il y a toutes les variantes. Mais même quand on n'a pas gagné, on a quand même considérablement, j'allais dire, moralisé l'activité de l'agence de la biomédecine, qui n'était contrôlée par personne. C'est une agence, un établissement public, qui devrait être contrôlée, il y aura une autorité de tutelle quand même, ministère de la Recherche ou de la Santé, contrôlée absolument par personne. Ils font absolument n'importe quoi. C'est complètement... c'est plein de monde des... Des banques de vocides, des banques de sperme. C'est le monde de la PMA, c'est le monde de l'industrie procréatique qui avait besoin de cette agence pour, en fait, autoriser la recherche sur l'embryon à leur profit. Donc, il y a une sorte de moralisation, c'est-à-dire qu'au moins, ils savent que on regarde et on regarde de près. Et puis, dans la mesure où on a gagné quand même quelques fois, on est crédible. C'est-à-dire que, d'ailleurs, il y a des retombées, parce que moi, systématiquement, je suis invité... systématiquement à toutes les lois de bioéthique pour auditionner à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil d'État, au Comité d'éthique. Alors ça ne sert à rien parce qu'ils n'écoutent jamais. Enfin, ils m'entendent, mais ils ne m'écoutent pas, ou le contraire. Mais en tout cas, j'y vais. Ça veut dire qu'on est quand même considéré comme étant crédible. Et puis, en fait, troisième étape, déshumanisation de l'être humain. Il y a des milliers et des centaines de milliers d'embryons humains qui sont devenus en quelque sorte des objets, des choses et du matériau de laboratoire. Bon, c'est quand même très triste. Une situation quand même terrible, on est dans une grande consommation d'embryons. Et puis quatrième étape, c'est l'étape la plus récente, c'est pas la déshumanisation de l'être humain déjà, c'est la création d'êtres déshumanisés ab initio, dès le départ. Autrement dit, la création d'êtres déshumanisés déjà, avec les embryoïdes. Ça c'est une avancée de la loi, dernière loi de bioéthique 2021. On a la possibilité maintenant de créer des êtres humains qui sont... qui ne sont pas considérés comme des êtres humains. Alors, on dit, voilà, on le fabrique avec des, on le fabrique avec des cellules embryonnaires, on le fait pousser, en quelque sorte, en éprouvette, et puis on le fait durer le plus longtemps possible, au-delà des durées qui sont autorisées pour les embryons. Et donc, c'est une manière, au fond, de se donner la possibilité de faire de la recherche sur l'embryon le plus tard possible, en disant que l'être qui a été fabriqué, parce qu'il est fabriqué, n'est pas un être humain. Sans qu'on sache si c'est un être humain ou ça ne l'est pas. Et donc, il y a une situation extrêmement trouble, un gros malentendu, autour de cette notion d'embryoïde qui, en fait, on crée un être dont on dit qu'il n'est pas un être humain. Bon. Alors que dans bien des cas, probablement, c'en est un, mais on dit qu'il ne va pas se développer. Ils essaient de fabriquer un produit qui va être obsolète au bout d'un certain nombre de jours ou de semaines, en quelque sorte. Et de toute façon, il ne sera pas propre à vivre. Donc, il est vraiment créé pour la recherche. Donc, c'est vraiment... une régression complète et une aggravation des lois de bioéthique. Voilà ce que je voulais vous dire. Et voilà, on en est là. Bon. Et la dernière loi de bioéthique, celle qui a été votée en 2021, a fait tomber énormément de... Les quelques petites barrières qui existaient sont toutes tombées. On est dans une loi qui est devenue extrêmement permissive, qui a déréglementé les peu de choses qui étaient réglementées. Mais tout ça est passé totalement inaperçu parce que la mesure phare de la loi de bioéthique de 2021, c'était quoi? La PMA pour toutes. Donc on a parlé que de ça, que de la PMA pour toutes pendant 2 ans. Et c'est tout. Le reste, ça n'a intéressé strictement personne, alors qu'à mon avis, le reste était au moins aussi grave, si ce n'est pas plus. Voilà le paysage. Ce que je veux dire pour terminer là-dessus, c'est qu'au fond, la notion de limite n'existe pas, n'existe plus. Et il faut arrêter de se dire « Ah, mais alors, mettons des limites ». Non, 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 on ne met pas de limites. À partir du moment où on a violé un principe, il n'y a plus de limite par définition. C'est le premier pas qui coûte. Après... Bon, si vous voulez, il n'y a aucune raison, on ne remettra pas de limite. Donc, en fait, il faut revenir sur la violation du principe. Alors là, d'accord. Mais si on considère toujours que l'embryon est un être humain dont on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut détruire, qu'on peut faire, défaire, refaire, parfaire, c'est pas la peine de dire « mettons des limites ». Bon. Donc, la notion de limite n'existe plus à partir du moment où on a accepté des transgressions majeures, qui est la transgression de tuer l'être humain embryonnaire ou fœtal qui n'est pas encore né. Maintenant, on a accepté ça, on ne peut plus dire qu'il y a des limites. C'est comme quand les gens vous disent au moment de la loi sur l'avortement, quand on est passé de 12 à 14 semaines, « Ah, mais oui, mais bon, quand même la limite à 12 semaines, c'était mieux. » « Ah bon, pourquoi c'était mieux ? C'est pas mieux. » Bon, 12, 10, 12, 14, c'est pareil. Sur le plan moral, c'est la même chose. La seule différence, c'est que sur le plan technique, c'est différent. Moi, c'est une contrainte supplémentaire pour l'opérateur. Mais la notion de limite n'est pas pertinente. Je dis ça parce que dans le milieu chrétien, on a toujours eu tendance à dire « Ah oui, mais il faudrait mettre des limites ». Mais bon, non, ça ne marche pas. D'ailleurs, ça ne marche jamais, les limites. Au contraire, on les repousse de plus en plus. Donc tout ça parce qu'on a violé un interdit fondateur, l'interdit de tuer, c'est tout. Bon. Ça, c'est ça, la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi les dérives. On se console en disant « Ah, mais c'est des dérives. » Bon, attendez, dérives. Mais ce n'est pas des dérives. C'est pas des dérives. La dérive, enfin, une dérive, on peut parler de dérive quand on a un cap. La notion de dérive ne marche que par rapport à un cap. Sinon, ça veut dire quoi ? Bon. Donc, si vous avez un cap, effectivement, une dérive, on peut la corriger. On revient dans le cap. On reprend un alignement, on refait le point sur les étoiles, et puis on reprend le cap. Mais quand vous n'avez pas de cap, il n'y a pas de dérive. Et donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a aucun cap. Donc, le cap, c'est la transgression permanente. Donc, ce n'est pas des dérives. C'est normal. C'est des conséquences normales des choses qu'on a déjà faites, de la morale technicienne qu'on a mise en œuvre et qui demande des perfectionnements, des améliorations et dont le seul critère, c'est de marcher. Donc, en fait, cette morale technicienne, sa morale, c'est quand ça marche, c'est bien. En fait, c'est bien quand ça marche. Donc, quand on parle des techniques de PMA, elles sont bonnes. Les techniques de PMA sont bonnes quand elles marchent. En fait, le caractère bon, juste, ne se mesure pas qu'à l'efficacité ou au rendement de la technique. Pourtant, c'est la morale qui, aujourd'hui, prédomine. Voilà ce que je voulais dire, en gros, sur ce panorama transhumaniste. Alors, bon, ça ne va pas s'arrêter. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête aujourd'hui. Parce que, en fait, c'est le progrès, en fait. Il n'y a plus de choses qui sont vraies, qui sont fausses, qui sont justes ou injustes, qui sont belles, qui sont laides. Si c'est un progrès, c'est bien. Donc voilà. Si c'est un progrès technique, c'est bien. Donc on est vraiment dans cette morale-là. Alors, pour ne pas désespérer Biancourt, quand même, je vais revenir, essayer d'en revenir sur des choses un peu positives. Enfin, pas tellement quand même. Mais je voudrais simplement revenir à des racines. J'ai, pour différentes raisons, repris la lecture l'été dernier de l'encyclique Humanévité de Paul VI, écrite en 68. Et vous savez dans quel contexte elle est arrivée ? C'est intéressant de s'en souvenir. Elle est arrivée dans le contexte des années 60, évidemment, 68, et de la révolution sexuelle, et de l'émergence de la contraception hormonale au début des années 60 aux États-Unis. Jean 23, à l'époque, au début des années 60, c'était 60, la pilule hormonale, sa première apparition sur le marché américain. Et Jean 23, à ce moment-là, a désigné un petit groupe en disant il faut quand même regarder ça de près parce que ça risque de pas coller avec l'enseignement de l'Église sur la contraception, etc. Et donc, il crée ce petit groupe, il commence à travailler, et puis arrive le concile, et le petit groupe est mis un peu en sommeil. Bon. Et puis, à la fin du concile, Paul VI succède à Jean 23, et Paul VI reprend, réanime, réactive ce petit groupe, et il redemande à ce groupe de travailler sur la contraception hormonale. Et à sa grande stupéfaction, ce petit groupe donne un avis favorable à la contraception hormonale. Alors Paul VI est bien embêté, et donc il réétudie ça avec d'autres conseillers, d'autres scientifiques, d'autres théologiens. En particulier le jeune Wojtyla, qui n'était pas cardinal, qui était en Pologne communiste, et qui a joué un rôle totalement méconnu, mais de conseil quand même à la guerre de Paul VI. Et finalement, Paul VI, tout seul, a dit, finalement, je ne reprendrai pas les conclusions de ce petit comité, et moi, je fais une encyclique en disant que la contraception hormonale n'est pas licite aux yeux de l'enseignement de l'Église. Et ça a été en Humanévité, 24 ou 25 juillet 1968. Bon, personne ne s'en souvient ici, parce que vous êtes trop jeune pour beaucoup d'entre vous, et moi aussi d'ailleurs, mais en fait, ça a été un tollé. Bon, un tollé évidemment dans la société civile qui ne comprenait pas, mais aussi dans l'Église, parce que Paul VI avait pris une position très courageuse en reprenant sur ses épaules la responsabilité de porter l'enseignement de l'Église et de dire à ses conseillers, non, c'est pas bon, et donc, même au sein de l'Église, donc, cette position était très critiquée. Il se trouve que, étant moi-même à l'Académie pour la vie, depuis des années, je vois que cette affaire-là n'est pas morte, et ça continue à ressurgir, et sans arrêt, il y a des tentatives, au sein même de l'Église, au sein même de prélats de l'Église, qui disent, mais revenons sur Humanévité, c'est pas compris, personne ne comprend ça, même chez les chrétiens, ce qui n'est pas faux, hein. Bon, que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, mais il faut dire qu'on ne leur a peut-être pas expliqué non plus, etc. Bon. Et donc, voilà, je me suis réintéressé à Humanévité. Et en relisant cette encyclique que je vous exhorte à lire ou à relire, parce qu'elle n'est pas longue du tout, elle est très facile à lire, en fait, on s'aperçoit que le pape Paul VI, ça m'a été apparu très clairement, il était extrêmement prophétique dans sa manière de voir. Il faut voir que l'encyclique Humanité est sortie exactement jour pour jour, 10 ans avant la naissance du premier bébé in vitro en Grande-Bretagne, qui est né exactement en 78, le 24 juillet 1978, jour pour jour. Bon, tout ça, c'est peut-être du folklore, mais quand même, ça veut dire que le pape aussi avait le pressentiment de ce qui allait arriver. Et en particulier, il avait stigmatisé, bien sûr, la séparation entre la sexualité et la reproduction, la séparation, considérant que, suivant la tradition classique de l'Église, la sexualité ne devait rester ouverte sur la vie. C'est-à-dire que, bon, il ne s'agit pas d'avoir un enfant à chaque rapport sexuel, mais enfin, la sexualité doit rester ouverte sur la vie, sinon elle est en quelque sorte illégitime. Bon, si on sépare complètement l'activité sexuelle et la reproduction, en fait, on voit bien ce que ça donne, parce que c'est ce qui se passe. En fait, la sexualité totalement libérée de toute responsabilité procréatrice devient folle. Mais d'ailleurs, elle l'est, puisqu'on ne se satisfait plus d'un seul partenaire, ni un partenaire de même sexe, etc. Bon, on voit bien ce que ça a donné, la révolution sexuelle, après. Et on voit bien le retour de bâton maintenant. Et puis, si on isole de son côté aussi complètement l'industrie procréatique, on voit ce que ça donne aussi. Elle devient folle, puisqu'elle est, en fait, elle est déléguée, au fond, à des tiers qui la reprennent et qui en font ce qu'ils veulent, puisqu'aujourd'hui, on fait des enfants sans parents, et qui les veut. La demande est extrêmement variée. Donc, on n'a plus besoin des parents pour faire des enfants, et les enfants peuvent faire l'amour sans avoir de les parents font des relations sexuelles sans avoir d'enfants. Donc, cette séparation rend folle la sexualité d'un côté et rend folle la procréation de l'autre. Et en fait, Paul VI avait vu ça. Et c'est ce qu'il a dit, en fait, dans l'encyclique, mieux que ça. Mais il montre bien qu'au fond, en rendant inopérantes les fonctions sexuelles, parce qu'au fond, elles sont rendues inopérantes, en quelque sorte. On les met entre parenthèses. En fait, on désorganise les rapports humains, le rapport entre l'homme et la femme. Et surtout, on prive le langage de la sexualité, de ce qu'il a à dire, au fond. C'est-à-dire que le langage de la sexualité ne dit plus ce qu'il a à dire. Et en fait, on rend, surtout, c'est ça la conséquence sur le plan bioéthique, c'est qu'on rend disponibles les gamètes. Parce qu'au fond, pendant tout le moment où on utilise la contraception, on n'a pas besoin des gamètes. Au contraire, on les met de côté parce qu'on n'a pas besoin. Et d'ailleurs, les scientifiques ne se sont pas trompés puisqu'ils nous proposent maintenant de les garder. Ah, vous ne voulez pas maintenant parce que vous voulez vivre votre vie tranquillement sans avoir d'enfant. Eh bien, écoutez, ne vous inquiétez pas, on vous les garde, on vous les prélève, que ce soit maintenant les spermatozoïdes, c'est plus facile, mais maintenant les gamètes, on vous conserve ça en banque, évidemment, ça a un coût, bien sûr. Mais elles seront triées, etc., puis vous les reprendrez dans 5-10 ans quand vous voudrez avoir un projet d'enfant. Et donc, en fait, cette séparation entre la sexualité et la reproduction, qui a été stigmatisée vraiment par le pape Paul VI dans l'encyclique Humanité, elle repose sur le risque qu'avait entrevu le pape de la disponibilité des gamètes. Or, si les époux n'en veulent pas, il y en a que ça intéresse, c'est les banquiers, évidemment, qui se font du fric là-dessus, et puis les scientifiques qui se disent, mais attendez, peut-être qu'un jour vous aurez peut-être envie d'avoir des enfants, hein. Alors, vous serez content de nous retrouver, parce qu'on va vous les faire. Et puis, peut-être que si ça marche plus, ben, on vous les fera in vitro, on vous les réimplantera. Donc, en fait, à partir du moment où on avait abandonné les gamètes, on les avait sortis de leur cadre naturel, de leur écosystème, en quelque sorte, elles devenaient des cellules comme les autres, alors qu'elles ne sont pas comme les autres. C'est les seules qui ne sont pas comme les autres, et qui ne servent à rien, d'ailleurs, qu'à faire des bébés. Et en fait, on les mettait entre les mains de tiers qui allaient s'en servir pour faire des bébés. On a délégué, en quelque sorte, la fabrication des enfants à des tiers. On a accepté de déléguer la fabrication des enfants à des tiers. Ce qui est quand même conceptuellement invraisemblable. Bon, c'est-à-dire qu'on s'est dit, ben oui, finalement, les techniciens, enfin, les parents, c'est trop sérieux de faire des enfants pour laisser ça aux parents, quoi. Les techniciens le feront mieux. Mais, en tout cas, ce tri est inséparable de la division de l'activité sexuelle, de l'activité reproductrice, et donc, voilà. Paul VI a vu ça très tôt. Je voulais vous le signaler parce que je pense qu'il faut reprendre la manière que l'on a de considérer la sexualité dans la vie aujourd'hui. Mais c'est le moment de le faire, je pense, parce qu'il y a aussi beaucoup de retours d'expérience sur la révolution sexuelle des années 60. On voit à quel point tout ce qui était débridé dans les années 60, tous les slogans qu'on entendait dans les années 60, jouir sans entrave, tous ces trucs-là, ben, c'est devenu des gros mots. Alors que c'était des mots de libération. Jouir sans entrave, c'était le sésame qui vous ouvrait le paradis sur terre. Et donc, on est revenu sur tout ça, avec une forme de sobriété, d'exigence, de moralité, de moraline, enfin, excessive peut-être. Enfin, il y a une remise en cause de tout ça. Bon, tout ça est très excessif, mais il y a quand même quelque chose de vrai aussi. Et je pense que dans la séparation totale maintenant de la sexualité et de la reproduction, c'est-à-dire la sexualité est devenue entièrement ludique, récréative, et la reproduction est le fait de techniciens. Bon. Et il y a aujourd'hui des enfants qui naissent par, des in vitro, avec une sélection par l'intelligence artificielle, et la fécondation est faite par robot, ce qui n'est pas en soi la chose la plus compliquée à faire. Et la sélection est faite par l'intelligence artificielle, qui apparie d'ailleurs les gamètes de manière à ce que voilà, ça colle mieux, etc. Il y a déjà des publications scientifiques qui montrent que les premiers enfants conçus par l'intelligence artificielle sont nés. Et puis, ce sera après ça l'utérus artificiel, etc., etc. Donc, en fait, l'origine de ça, c'est vraiment la séparation des deux. Et l'Église tient à cette unité entre les deux, en fait. Elle tient à l'unité entre les gestes de l'amour physique et la reproduction. Voilà. Et il faut réfléchir là-dessus parce que ça a été complètement perdu de vue. Alors, moi, j'y ai pensé, je ne suis pas du tout, je suis pour rien, mais je veux dire, sauf que je me suis dit, mais au fond, pourquoi ? C'est peut-être le moment de réfléchir à ça. Ça a été naturellement un sujet complètement décrié, complètement oublié. Et puis, à chaque fois qu'on reparle de ça, il y a toujours des quantités de journaux qui s'affolent, y compris dans le monde chrétien, bien sûr. Mais il faut savoir qu'à Rome, c'est une idée encore qui mijote, quoi, en permanence, comme un feu, un feu doux. Je pense que Paul VI était précurseur et avait vu au fond que les racines du transhumanisme qui n'avait pas encore pignon sur rue étaient dans cette dissociation des deux activités que je viens de vous citer, que sont la sécurité et la reproduction. Donc il faut y réfléchir pour nos enfants, en fait, en tout cas, parce que c'est vraiment le moment de le faire. Voilà. Et puis la dernière chose pour terminer, un petit mot sur... ça, c'était les racines profondes du transhumanisme, elles sont là. On n'en parle pas beaucoup, parce que c'est très embêtant. Bon, l'avortement, c'est plus facile à expliquer. Bon, à admettre, c'est binaire. Contraception, c'est plus touchy, quand même. Hein. Mais bon, il faut quand même aller à la racine des choses, maintenant. On voit bien qu'il faut aller à la racine des choses. Et de l'autre côté, il y a des conséquences encore très concrètes de cette vision transhumaniste, matérialiste de l'être humain. Eh bien, c'est l'euthanasie et le suicide assisté. Bon, on est en plein dedans. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la mentalité transhumaniste, la fin de vie volontaire organisée à travers l'euthanasie ou le suicide assisté, ça fait partie du programme. En effet, dans le credo transhumaniste, il y a la mort de la mort. C'est le titre d'un bouquin qui a été écrit par Laurent Alexandre, La mort de la mort. Donc il dit, de toute façon, c'est fini. On a aboli la mort. On ne mourra plus. Alors, c'est très excessif. Mais dans les conférences, il dit, d'ailleurs, ici, il y a des gens qui ne mourront pas. Ah bon, elle est plus jeune, sans doute, parce que on pourra tellement prolonger la vie qu'on ne mourra jamais. Alors, la mort de la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait un peuple de vieux. On pourra réparer indéfiniment, augmenter l'être humain, le réparer. Et donc, on fait un peuple de vieux, on n'a plus un enfant, quoi. Donc, en fait, dans la mentalité transhumaniste, on fera les enfants dont on a besoin, et puis on ne mourra plus que par inadvertance ou accident, ou par régulation autoritaire par l'État, parce qu'il y aura trop de vieux. Et on sera un pays trop vieux. Et c'est déjà la situation qu'on connaît. C'est ça, en fait, la cause du vote de la loi sur la fin de vie, c'est qu'on est un pays de vieux, et qu'il y en a trop, et que ça coûte trop cher. C'est la seule justification. C'est évidemment pas la justification qu'on vous présente. Il y a trois arguments qu'on présente, c'est facile. Des arguments humanistes, éculés, dont il est très facile... C'est facile de contrer, et la dignité. Bon, association pour mourir dans la dignité. Comme si on ne mourait pas dans la dignité. Si on termine comme un légume. Mais personne ne meurt comme un légume, on ne meurt pas. Personne n'est un légume, jamais. Ah, parce qu'il y a la souffrance. Ah oui, mais les souffrances sont irréductibles. C'est épouvantable, vous ne vous rendez pas compte. Moi, dans ma famille, j'ai, et chacun ressort son histoire, etc. Bon. Mais c'est un argument aussi qui est très facile de contrer. Et puis, enfin, la liberté. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, je suis libre de demander ma mort, et je demande à l'État de me l'accorder par les moyens de la médecine. Voilà. Sauf que, moi, je suis libre de demander la mort, mais ça veut dire qu'on crée une obligation pour quelqu'un de vous la donner. Et je ne vois pas au nom de quoi l'État imposerait à des médecins dont ce n'est pas le métier de donner la mort. Et d'ailleurs, ils l'ont dit assez clairement. Mais la réalité, ce n'est pas ça. C'est aucun de ces trois arguments-là. Le seul argument, c'est l'argument économique. Évidemment, il n'est pas formulé comme ça. C'est insupportable d'entendre ça. Mais au fond, c'est la seule raison. Bon. Donc voilà, c'est ça l'actualité du jour. Alors, il y a quelques petites bonnes nouvelles, si je puis dire. C'est que d'après les informations les plus récentes, il semble que le gouvernement et Macron en particulier semblent avoir compris qu'il y avait quelque chose d'incohérent dans la présentation de la proposition de loi qui est en cours. C'est qu'on mettait dans une même loi à la fois le suicide assisté et l'euthanasie et les soins palliatifs. Mais c'est quand même une prise d'otage considérable. C'est-à-dire, tout le monde dit que la solution, c'est quand même le développement des soins palliatifs, ce qui est vrai, et il en manque, et on en a besoin. C'est ça la véritable réponse. Quand quelqu'un dit « je veux mourir », c'est qu'en fait, il dit « je ne veux pas souffrir ». Mais les soins palliatifs sont faits pour ça. Et ça marche très bien. Bon. Donc en fait, il faut en développer, ça coûte très cher, c'est très long à mettre en œuvre, on n'a plus de médecins, ça va prendre 10 ans. Ah bah oui, ça va prendre 10 ans pour que la France soit bien couverte. Alors que vous votez l'euthanasie maintenant, c'est demain. Parce que ça, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de recruter personne. Il suffit de donner une pilule ou de faire une piqûre et c'est fait. Donc en fait, mettre dans la même loi, pour répondre à la peur des gens, parce que finalement, les gens ont peur de mourir, et ils ont peur de souffrir, etc. Ils veulent une réponse. Et leur mettre, ben voilà, vous aurez l'euthanasie, et puis on va vous faire un plan de développement de soins palliatifs à côté, qui va durer 10 ans, mais l'euthanasie, vous l'avez demain. C'est quand même objectivement se moquer du monde. Bon. Alors, je crois que le gouvernement l'a un peu compris et pressenti, et d'ailleurs, c'est pour ça que Mme Firmin Le Bodo n'est plus là, et puis que l'Élysée ou Macron a laissé filer l'idée qu'il pourrait y avoir deux textes, ce qui était une demande qui avait été faite par les médecins, en particulier par la Société française de soins palliatifs, en disant au moins faites deux textes différents. Développons les soins palliatifs pour commencer, et on verra. S'il y a des soins palliatifs partout, la demande d'euthanasie, elle va disparaître petit à petit. Et c'est ce que disent les spécialistes soins palliatifs. Quand on s'occupe des gens, eh bien, ils ne redemandent pas à mourir. Ils s'éteignent, il n'y a pas besoin de faire de l'acharnement thérapeutique, on est bien d'accord là-dessus. Mais il n'y a pas non plus besoin de provoquer la mort et d'anticiper la mort avec cette autorisation médicale de mourir, cette aide médicale à mourir, qui est extrêmement violente pour les médecins. Et qui sera une désolation dans les familles, parce que naturellement, ça va entraîner des disputes infernales. Ah bon, t'avais décidé tout seul, tu me l'as pas dit, j'étais pas là, pourquoi on m'a pas demandé? Bon. Et puis les médecins vont y perdre leur âme. Et donc, ceux qui sont vraiment battus, c'est les soins palliatifs. Car autoriser l'euthanasie, c'est commencer par faire mourir les soins palliatifs. Évidemment, si on autorise l'euthanasie, du coup, on n'a plus besoin de faire les soins palliatifs. La réponse est à portée. Et on développera pas les soins palliatifs. Donc la première victime de l'euthanasie, ce sera les soins palliatifs. Donc c'est quand même un enjeu extrêmement important. C'est hyper grave ce qui va se passer. Ça va pas être drôle pour nos descendants. Ce ne sera pas drôle. Peut-être pour nous non plus d'ailleurs. Mais c'est vraiment un sujet qu'il ne faut pas prendre à la légère. On a déjà une démographie médicale qui est très mauvaise. On a un système médical qui ne marche plus. Un hôpital public qui est en lambeaux. Des secteurs qui sont totalement déshérités. La pédiatrie, la psychiatrie. Bon. Et on rajoute par-dessus ça l'obligation faite à certains médecins de délivrer la mort à ceux qui le demandent. Enfin, c'est pas possible. Et tout ça, dans le 1er janvier, pourrait enchanter la France et les Français. Enfin, de qui se moque-t-on? Cette fascination pour la mort, elle est pathologique, quand même. Voilà. Donc, en fait, la petite bonne nouvelle, c'est qu'il semble que, après le départ de Mme Firmin Le Bodo, en fait, le gouvernement ait pensé quand même que ce serait quand même mieux de commencer par stabiliser bien les soins palliatifs dans un premier texte, et après, peut-être, on verra. Bon, de toute façon, ce qu'il faut faire, c'est gagner du temps. La seule chose, c'est gagner du temps. Parce qu'on n'est pas les rois du monde. Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'était pas évident. Bon, ça a été aussi globalement la position des cultes, bon, qui sont tous d'accord à peu près là-dessus. Bon. Donc, petite bonne nouvelle quand même, vous voyez. Et puis, deuxième petite bonne nouvelle, si on peut dire, pour l'avortement dans la Constitution, que je n'aborde pas parce que, bon, c'est même pas la peine, il est trop tard. Enfin, vous comprenez bien que c'est une ânerie. Alors, évidemment, pour donner le change, on a dit non, non, ça ne sera pas un droit, ça sera une liberté. Donc, en fait, la position de l'Assemblée nationale était complètement débile, c'était un droit, bon, très mal rédigé. Rédigé par Mme Panot, LFI, bon, c'était un truc bon, pas possible, c'était invendable ce truc-là. Ça arrive, c'est voté à l'Assemblée, et ça arrive au Sénat. Les sénateurs se drapent dans leur dignité en disant « nous, on est meilleurs quand même, et on va faire quelque chose de mieux ». Et donc Philippe Bas, que je connais bien, que j'ai été voir après pour le gronder, il a dit « ben voilà, puisque l'Assemblée nationale s'est plantée en disant un droit, je vais vous dire ce qu'il faut faire, il faut écrire la liberté. Dans la Constitution, on va écrire la liberté d'avorter. C'est une liberté, le droit, ce sont les parlementaires qui le font, et le Conseil constitutionnel, la Constitution n'a pas à déterminer, ce n'est pas un catalogue de droits. Ce en quoi il avait raison sur un plan juridique, mais en même temps, il a donné à Mme Panot la possibilité de se redorer le blason, et donc en fait, quand le texte est revenu à l'Assemblée, bah, en fait, tout le monde était content. On se dit, bah, voilà, au moins on aura l'avortement de la Constitution. Que ce soit un droit ou une liberté, c'est le résultat est le même. C'est aussi grave dans les deux cas. Ce que veulent les féministes, en fait, les progressistes, c'est mettre l'avortement dans la Constitution comme étant une valeur fondamentale de la République. Donc, c'est ça qu'il faut absolument éviter. Alors là où il y a peut-être une chance, c'est que Macron, pour faire du en même temps, dans son projet de loi qu'il a soumis, c'est une liberté garantie. La liberté garantie, c'est un droit, en fait. Alors, il a pris liberté chez M. Philippe Bas, et puis il a pris garantie pour faire plaisir aux féministes, donc liberté garantie. Voilà. Alors, en fait, l'Assemblée nationale va le voter, elle l'a voté en commission, et donc ils vont le voter en séance dans les jours qui viennent. Et puis, ça va passer au Sénat. Mais le Sénat, pour le moment, à travers la position de M. Larcher qu'on a entendu ce matin ou hier, il est contre, donc il ne veut pas cette liberté garantie qui est en quelque sorte un droit. Donc, en fait, il dit qu'il n'y a pas besoin de le faire. La Constitution n'a pas besoin de ça, c'est pas le BHV, pas la Samaritaine, c'est pas un fourre-tout. Et donc la petite chance, la petite bonne nouvelle, c'est que ça fera au moins exploser le calendrier voulu par Macron, qui dit bah, le 5 mars, c'est bon, ça passera au Congrès à Versailles, et le 8 mars, Journée nationale des femmes, je pourrai leur présenter ce cadeau de l'avortement de la Constitution. Ça peut pas marcher, et c'est une petite bonne nouvelle, parce que ça permettra de gagner du temps. Voilà ce que je voulais vous dire pour terminer, il ne faut pas désespérer. La lutte continue, le combat continue, la vie est un combat. Et au fond, il y a des combats de bas étage, il y a des combats, et puis il y a des combats de haute altitude aussi. Donc la vie, c'est ça, c'est de les mener. Parce que la vie, c'est une paix de tension dramatique dans lequel, en fait, tout ce qui n'est pas sacrifié est perdu. Et on a besoin aussi, rien n'est acquis sans sacrifice. Donc en fait, on est en permanence dans cette tension-là. Et c'est normal que ce soit difficile, surtout sur ces sujets-là, qui sont les sujets les plus importants. C'est compliqué, c'est difficile, et c'est normal qu'on vive, on a l'impression de vivre des événements qui sont douloureux ou chaotiques ou pénibles, et qu'on a l'impression de perdre tout le temps. On ne perd pas tout le temps, et tant qu'on est là pour témoigner, pour dire les choses, eh bien on a raison de le faire, il n'y a pas de raison de perdre l'espérance. Même le chant le plus funèbre est encore un chant d'espérance, seul le désespoir n'a plus de voix.